Bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur Radio Campus 88.3, l'école à la maison. L'école à la maison, voilà ce qui arrive aux élèves depuis le lundi 16 mars, date à laquelle ils n'ont pas pu reprendre leurs cours en raison des événements d'épidémie de coronavirus. Et l'éducation nationale a donc mis en place notion apprenante dans le cadre de la continuité pédagogique. Il s'agit tout simplement de l'école à la maison. Dans cette émission, nous allons recevoir de nombreux directeurs d'établissements, donc de collèges et d'écoles primaires de Orléans-la-Source, qui s'exprimeront pour nous expliquer comment ils ont pu mettre en place justement cette continuité pédagogique, l'école à la maison, avec leurs élèves, avec les enfants, ces enfants qui appartiennent à des familles. Et donc il peut y avoir certaines problématiques des fois liées aux ordinateurs portables, un ordinateur portable pour plusieurs enfants dans la maison, pas d'ordinateur portable, ou alors pas de téléphone, smartphone avec possibilité de se connecter sur Internet. Et donc comme le dira tout à l'heure Madame Bourgeon dans une interview qu'on a eue, vous pourrez entendre par vous-même que le téléphone, le courrier aussi, ont pris la place à ces moyens de technologie moderne. Nous avons à présent un appel de Madame Bourgeon. Madame Bourgeon, inspectrice de la circonscription Orléans-Sud, qui comprend Orléans-la-Source, mais également des villes telles que Marcy-en-Villette ou encore Saint-Cyr-en-Val. Bonjour Madame Bourgeon.
Bonjour.
Bonjour.
Oui, bonjour. Mesdames, messieurs, les parents des élèves, mesdames, messieurs, les enseignants, bonjour aux élèves des écoles et des collèges d'Orléans-la-Source. C'est dans ce contexte très particulier lié au confinement permettant de lutter contre la contamination par le virus Covid-19 sur notre territoire que s'ouvre cette semaine de la presse et des médias, cette semaine de la radio à l'école et au collège. Ma première pensée va aujourd'hui à tous ceux, enfants, parents, enseignants, à leurs proches, qui luttent aujourd'hui contre cette maladie. Je leur souhaite du fond du cœur un prompt rétablissement. Les personnels de santé sont à leur côté et nous ne les remercierons jamais assez de leur dévouement et de leur engagement. Ils voulaient à maintenir une prise en charge hospitalière de bonne qualité en appliquant ce principe simple « Restons tous chez nous ». Je salue l'engagement de nombreux enseignants qui accueillent au sein de plusieurs écoles et collèges les enfants de ces personnels soignants. Grâce à l'accueil de ces enfants par les enseignants, soignants, des infirmières, des infirmiers, des médecins peuvent aller travailler. Je salue également l'investissement de tous les enseignants qui, avec une adaptabilité remarquable, assurent la continuité pédagogique auprès de leurs élèves par mail, par courrier, par téléphone. Je salue enfin tous les enfants qui effectuent avec un grand sérieux le travail qui leur est demandé. Si les épreuves apportent leur lot de tristesse et d'anxiété, elles apportent également des points positifs qu'on ne soupçonnait pas. En effet, cette épreuve de confinement pour lutter contre le Covid-19 semble apporter de la maturité aux enfants, une capacité à travailler seul, pour soi-même, en autonomie, à se prendre en charge. Ces capacités, ces compétences dont ils auront besoin tout au long de leur vie, il faudra les faire perdurer lors du retour à la vie normale. Pour l'instant, il s'agit de donner le coup d'envoi à cette action radio à l'école, radio au collège, radio de l'école depuis la maison, rendue possible grâce à l'implication de Radio Campus, que je remercie, et de notre chef d'orchestre local, notre coordonnateur de l'éducation prioritaire, Jean-Hugues Brinon. Chacun, chacune va se mobiliser pour transmettre un message enregistré, poésie, chant, lecture, rédaction, énigme ou problème mathématique, interview. Ces messages, au-delà de leur contenu, nous permettront l'essentiel. Conserver le lien social qui nous manque tant en ce moment. Montrer à tous que même isolés, nous restons ensemble, solidaires, porteurs de fraternité. Je souhaite à chacun une imagination débordante, associée à une sérieuse, voire rigoureuse préparation, permettant des productions les plus variées possibles. Bon courage à tous et excellente production radiophonique.
Merci Madame Bourgeon.
Merci, bonne journée.
Bonne journée à vous également. Je suis en liaison avec Jean-Hugues Brinon. Jean-Hugues Brinon, coordinateur de l'éducation prioritaire sur les quartiers d'Orléans-la-Source notamment. Bonjour Jean-Hugues.
Bonjour, bonjour à tous.
Alors, on a écouté le témoignage de Madame Bourgeon. Est-ce que tu pourrais nous en dire un petit peu plus lorsqu'elle nous parlait de conserver le lien avec les parents? En quoi cela consiste?
Bien sûr, donc vous avez bien compris, on est dans une période difficile où il est très très important de maintenir le lien, alors le lien avec l'école. Les parents reçoivent les enfants également, tout ce que les écoles avec leurs enseignants, Madame Bourgeon en a parlé, transmettent aux élèves par l'intermédiaire de tous les moyens possibles. Par mail, avec différents dispositifs dont vous nous parlez tout à l'heure, comme tu l'as dit, Daniel, les différentes personnes principaux de collège ou directeurs, directrices d'école, avec leurs équipes pédagogiques, ont mis en place. Et on va s'apercevoir qu'il y a des choses très, très variées qui ont toute leur importance pour maintenir ce lien. Et au-delà de ça, on souhaitait justement, puisque c'était la semaine de la radio, et que nous pensions également que la radio était un bon moyen de toucher le maximum de monde, en tout cas tout le monde, puisque c'est un outil très très simple et accessible partout et tout le temps, justement de donner la parole tout d'abord aux responsables d'établissement pour décrire un petit peu et éventuellement rassurer toutes ces familles qui nous écoutent. Et c'était également peut-être l'occasion plus tard, c'est ce que l'on souhaite, hein, d'avoir des échanges réguliers au cours de cette période de confinement où chacun est chez soi, ne peut pas sortir et n'a pas forcément le lien direct avec l'extérieur, on va dire. Donc voilà, et la radio est un bon moyen de cela, pour assurer justement cette continuité pédagogique, certes, mais le lien tout d'abord, le lien que l'on cherche et qu'on entretient régulièrement. Sur le quartier de la Source.
D'accord. Alors effectivement, il y a de nombreuses angoisses de la part des parents. Ces angoisses, elles peuvent être matérielles, par exemple, parce qu'ils n'ont pas d'ordinateur à la maison, je le disais tout à l'heure, ils n'ont pas de téléphone portable, de smartphone, de téléphone portable intelligent pour parler français qui leur permettrait d'aller sur Internet, et parfois même, peut-être même pas de téléphone tout simplement. On va voir qu'il y a des solutions qui ont été mises en place par les enseignants au cours de cette émission. On a vu aussi qu'il y avait donc, enfin, il y a d'autres parents aussi qui craignent comment dire, que cette fracture sociale qui existe déjà au quotidien pour eux ne s'agrandisse, et notamment la fracture scolaire, parce qu'il faut savoir qu'il y a des parents qui sont allophones pour certains, alors quelques-uns seulement, mais quand même illettrés ou analphabètes, ou alors qui n'ont tout simplement pas les compétences pour accompagner, pour faire le travail des professeurs, parce que c'est un métier, rappelons-le quand même. Et donc ces facteurs multiplient les risques de décrochage de scolaire. Ce sont quand même ces publics vulnérables d'élèves déjà qui étaient en difficulté, qui risqueraient justement de se retrouver à l'écart lors de la rentrée dans quelques semaines. On va parler de tout ça au cours de cette émission avec plusieurs invités. Il y aura Monsieur Kervella, principal du collège Montesquieu, Monsieur Daré, non, alors, pardon, directeur de l'école Kergomard, Madame Lacour de l'école Pasteur.
Et vous verrez qu'il y a une foultitude de solutions qui sont proposées aux parents avec d'outils qui existaient déjà, certes, c'est le cas notamment pour les collèges, mais des outils qui existaient, qui ont été mis en place très très rapidement par les différents collègues. On va écouter tout cela et on va contacter Monsieur Kervella.
Oui, alors par rapport aux problématiques que j'avais évoquées tout à l'heure, les problématiques matérielles, donc ordinateur, téléphone portable ou les inégalités sociales ou familiales, est-ce qu'il y en aurait que j'aurais oublié selon toi?
Non, il y a des solutions qui ont été mises en place très très classiques, hein, basiquement. Alors toujours, bien sûr, en respectant la règle, restez chez soi, restez chez vous, bien sûr. Mais on peut transmettre par papier. Il y a des voisins qui peuvent se faire le relais de l'école ou de l'enseignant qui veut transmettre un document. Il y a des choses, des papiers, des feuilles d'exercice très très classiques, hein, photocopiées, qui ont été transmises ou qui sont transmises. Mais tout ça, bien sûr, en évitant le contact et en respectant les gestes barrières.
Alors, une dernière question, Jean-Hugues, avant de retrouver Monsieur Daré. Tout ce travail qui est
Monsieur
demandé.
Kervella.
Ah, pardon, Monsieur Kervella, oui, exact. Tout ce travail qui est demandé aux élèves pendant la période de confinement, est-ce que, il sera évalué au retour, à la normale? C'est-à-dire que, je ne sais pas, mettons que les élèves en soient à la table de 5 et que pendant le confinement, on leur demande d'apprendre la table de 6 ou de 7. Est-ce qu'à la rentrée, s'ils ne connaissent pas la table de 6 ou de 7, ça posera problème entre ceux qui auront réussi à suivre de manière assidue le travail à la maison et puis ceux qui, pour des diverses raisons, ne l'auraient pas pu?
De fait, le but, c'est de ne pas, on en a parlé tout à l'heure, hein, de ne pas accroître les inégalités qui pourraient déjà exister. Et dans une classe, quelle qu'elle soit, il y a toujours des différences. Les enseignants essayent toujours d'adapter au maximum dans la mesure des possibilités. Donc là, avec cette situation qui est encore, on va dire, plus criante, avec les différences qu'on a déjà évoquées tout à l'heure, d'équipement, de nombre de personnes, de compétences ou pas des parents pour accompagner. Bon, il n'est bien sûr pas question de cela, et il faut rassurer bien sûr tous les parents là-dessus. Le but là, c'est de conserver un lien avec l'école, avec son enseignant, avec l'apprentissage, mais surtout revoir des notions qu'on a déjà vues. Peut-être des nouvelles, ça c'est à chaque enseignant de juger comment il peut procéder, pour maintenir aussi une certaine habitude de travail. Le confinement, ce ne sont pas des vacances, non, ce sont des circonstances particulières pendant lesquelles on peut faire des activités et maintenir bien sûr une activité, je serais tenté de dire cérébrale, en faisant plein plein de choses. Hein. Il y a plein de choses qu'on peut faire à la maison, dans un appartement. Compter, lire, écrire, compter, ce sont les choses basiques qu'il faut entretenir et qui ne sont bien sûr pas évaluées à la rentrée, là, à la reprise des cours. On nous dira la date qui est prévue pour cela, mais quelle que soit la durée, ce n'est pas le but. Le but, c'est de conserver une habitude de travail à minima et bien sûr d'entretenir toutes ces connaissances que les élèves ont déjà.
D'accord, merci pour ces précisions. Maintenir une activité cérébrale, c'est important ça aussi.
Ben oui, parce que ça permet d'échapper un peu à la tristesse, hein, on va dire, de cet état de confinement. On n'a pas la possibilité de mener toutes les activités qu'on mène d'habitude. Je pense aux enfants qui vont à l'école, par exemple, parce qu'à l'école, on apprend, mais on joue aussi. On a,
Eh
comme on
oui.
dit, on a ses pairs, ses camarades avec lesquels on échange.
Eh oui.
Quand on rentre de l'école, on va jouer un petit peu en bas dans le parc. Tout ça, on ne peut plus le faire. Donc, c'est vrai que c'est important d'avoir l'esprit un peu occupé. Bon. On va essayer d'avoir Monsieur Kervella.
Oui.
Allô?
Allô.
Oui.
Oui, bonjour
Monsieur
Monsieur
Kervella, vous
Kervella.
m'entendez?
Oui, très bien.
Bonjour.
Bonjour Monsieur Kervella.
Donc c'est... Bonjour.
Alors, vous êtes
Et
principal,
enchanté.
de même, vous êtes principal du collège Montesquieu à Orléans-la-Source. Est-ce que vous pourriez revenir sur la journée du vendredi 13 mars, donc la veille suite à l'annonce du président de la République, vous avez dû mettre en place une école à la maison, en quelque sorte, on pourrait appeler ça?
Oui.
Voilà. Comment est-ce que vous avez réagi, vous, donc le lendemain matin, à 8 heures, peut-être même avant? J'imagine que l'agenda d'un principal de collège commence peut-être même avant l'ouverture des classes.
Souvent, oui, là, il a commencé encore plus tôt.
Expliquez-nous tout ça. Expliquez-nous tout ça.
Ouais, bon. Alors, en fait, je suis venu donc, relativement tôt pour faire une communication en direction des familles. Expliquant donc la fermeture à compter du lundi 16 mars et dans les grandes lignes commence la continuité pédagogique allait s'organiser autour de l'outil informatique de vie scolaire qu'on utilise d'ordinaire dans l'établissement en essayant d'être très synthétique pour ne pas perdre les élèves et les parents. Donc, des personnels de direction et ou enseignants, en fonction de la disponibilité de chacun, sont passés dans chacune des classes pour expliquer de vive voix aux élèves ce qui allait se mettre en place. Parallèlement, la conseillère principale d'éducation et les référents numériques ont pris donc en petits groupes tous les élèves qui avaient des difficultés de connexion à notre outil informatique de vie scolaire pour s'assurer qu'ils repartent le soir en pouvant se connecter. Puisque nous savions que la continuité pédagogique pourrait se mettre en place de façon massive à la condition d'avoir une connexion possible aux outils numériques qu'on utilisait habituellement. Je m'explique, pour passer le travail, diffuser des liens, des vidéos, des quiz en ligne, etc. etc. Ensuite, nous avons communiqué donc via cet outil également donc aux parents pour multiplier les canaux de communication. Et nous avions prévu avec les enseignants le lundi matin de faire un conseil pédagogique en visioconférence pour pouvoir s'harmoniser sur les stratégies pédagogiques que nous allions mettre en place. Le vendredi n'étant pas suffisant pour cela, on avait juste eu le temps de définir les grandes lignes et de communiquer en direction des familles. Donc toute la gestion pédagogique s'est organisée le lundi 16 mars avec les coordonnateurs de discipline qui ont ensuite fait le lien avec leurs collègues pour que voilà, chacun commence à travailler et déposer du travail aux élèves.
Qu'est-ce qui est attendu des élèves ?
Qu'est-ce qui est attendu des élèves ? Alors qu'ils gardent un lien avec, avec leur scolarité, déjà nous sommes en REP. Nous savons très bien que nous nous adressons...
Excusez-moi, REP, Réseau d'éducation prioritaire.
Tout oui, à fait, hein, sur le secteur de la source. Mais, merci de me le faire préciser. Et donc, on a certains élèves qui sont fragiles. Et notre premier souci, c'est de maintenir le lien avec ces élèves-là, donc le lien avec l'école, et ensuite de s'adapter aux outils qu'ils ont à leur disposition pour qu'ils puissent travailler dans les meilleures conditions possibles. Oui, je m'explique. Il est illusoire de croire chez nous que on peut envoyer un document à imprimer pour coller sur un cahier. Plus de la moitié des élèves ne disposent pas d'imprimante à la maison.
Mais bien sûr, oui, oui. Et alors, donc, garder ce lien, tout à l'heure avec Jean-Hugues Brinon, on disait par exemple maintenir une activité cérébrale pour des adolescents qui sont en pleine croissance, justement, dont le cerveau ne cesse de se développer. Est-ce que vous pourriez leur expliquer pourquoi il est nécessaire de maintenir une activité cérébrale ? Et qu'entendez-vous par... alors, je vais vous demander d'expliquer ce qu'a dit Jean-Hugues Brinon. Est-ce que vous êtes d'accord déjà avec les termes « maintenir une activité cérébrale » ?
Alors bon, maintenir une activité cérébrale, oui, quelle que soit l'activité que l'on fait, c'est une activité cérébrale, mais c'est de maintenir un lien avec les apprentissages scolaires, parce que c'est essentiel. Tout d'abord, il faut continuer d'apprendre vis-à-vis des attendus de l'école, bien entendu, et puis un jour, les établissements vont réouvrir. Et les élèves reviendront en classe. Et si le lien a été bien maintenu, je pense que ça facilitera le retour à l'enseignement plus classique que nous connaissons d'ordinaire. Ensuite, il est assez difficile, par contre, de croire qu'on va pouvoir aborder des notions nouvelles à distance. Hein, parce que... on ne peut pas remplacer complètement la présence physique d'un enseignant. Donc le pari que nous avons fait, c'est plutôt de consolider les notions qui avaient été abordées d'ores et déjà depuis le début de l'année.
D'accord. En fournissant un travail personnel, ce dont parlait Madame Bourgeon tout à l'heure justement, c'est l'occasion pour les élèves de développer leur autonomie et une certaine maturité pour travailler tout seul à la maison.
Tout seul à la maison, dans la limite de leur capacité.
Dans la limite de leur capacité, d'accord. Il s'agit en fait de garder une habitude de travail à minima quand même. De ne pas oublier que ce ne sont pas des vacances et que les cours reprendront. Et donc de maintenir une activité cérébrale, réviser les choses. Il y a toujours des matières dans lesquelles on est moins bon que les autres. Que les autres matières. Donc, c'est l'occasion de réviser, de conforter les apprentissages, de revenir peut-être sur des notions qui auraient été mal acquises. C'est bien ça ?
Alors, c'est bien ça, tout à fait. Je vais prendre une image assez simple. C'est comme un sportif de haut niveau. Il ne peut pas se présenter à une compétition s'il ne s'entraîne pas régulièrement. Sinon, le jour de la compétition, il ferait une performance bien médiocre. S'agissant de la chose intellectuelle, je crois qu'on peut dresser dresser un parallèle. Il est important de maintenir une gymnastique cérébrale en termes d'apprentissage pour continuer finalement d'être un élève, tout simplement.
Monsieur Kerbella,
oui.
Est-ce qu'il y a parmi vos, et je ne doute pas qu'il y en ait, mais est-ce que vous pouvez nous en parler? Est-ce qu'il y a de certains de vos professeurs qui ont trouvé d'autres moyens et qui utilisent d'autres moyens que ceux dont vous avez parlé, là, qui est dire le moyen classique que vous avez, vous, à disposition dans le collège pour échanger et travailler à distance avec les élèves? Est-ce qu'il y a d'autres élèves qui ont, d'autres professeurs, pardon, qui ont mis en place d'autres solutions?
Alors oui,
Alors,
et pour poursuivre sur ce que vous disiez tout à l'heure, vous disiez que donc la CPE, la conseillère principale d'éducation, qui est également référente numérique, avait accompagné des élèves en difficulté. Est-ce qu'il y a eu des alternatives justement qui ont été proposées à ces élèves qui ne, par exemple, ne possédaient pas les outils numériques ou la connexion nécessaire, etc. C'est bien ça, Jean-Hugues, hein?
Oui, ou d'autres
Ou
solutions.
d'autres solutions justement, quelles solutions, quelles alternatives ont été proposées?
Alors, il y a pour certains qui ne disposent absolument d'aucune connexion, un envoi papier du travail à faire. Alors ça, c'est la dernière option qu'on a choisie quand vraiment, voilà, toute connexion était impossible, aussi ténue soit-elle, pour garder le lien dont je parlais. Heureusement, pour une grande majorité des élèves, une connexion reste possible. Alors souvent, le seul outil numérique à disposition des élèves est le téléphone portable. Le leur, celui du parent, parfois un téléphone, d'ailleurs parfois souvent, qu'il faut partager au sein de la fratrie. Fort heureusement, quand même, une très très grande majorité d'élèves disposent de cet outil à minima d'une connexion. Voilà. Alors, plusieurs choses. Déjà, ce qu'on est en train d'essayer de mettre en place avec les services du département, c'est un prêt d'ordinateur portable pour les élèves qui n'auraient pas les conditions suffisantes, voilà, pour pouvoir travailler à la maison. On va essayer, à partir de la semaine prochaine, de pouvoir en distribuer. Ensuite, sur les méthodes pédagogiques. Donc, plusieurs professeurs ont expérimenté les classes virtuelles avec des retours assez encourageants et ça semble plaire aux élèves.
D'accord.
Et ça leur permet en fait de dialoguer.
Alors, qu'est-ce que c'est qu'une classe virtuelle?
Bon, c'est une plateforme. Il y en a une qui est proposée par le CNED. Le ministère avait communiqué là-dessus, qui permet tout simplement de relier un professeur avec sa classe et de pouvoir dialoguer. Alors en vidéo, mais la plupart du temps de façon vocale, quoi.
D'accord, très bien. Et donc ça veut dire
Ensuite.
qu'il y a un rendez-vous qui est donné tel jour à telle heure, il faut que les élèves se
Oui,
connectent.
tout à fait.
D'accord.
On a réaménagé les emplois du temps, hein, voilà, de façon à limiter le nombre de blocs horaires par jour et de pouvoir ventiler la charge de travail sur la semaine. Puisque le...
Ça représente combien d'heures par semaine de travail pour les élèves?
Alors, nous, on estime qu'en moyenne, un élève, et encore, je parle d'un bon élève, peut travailler efficacement de façon autonome 3 heures par jour.
D'accord,
Alors
oui.
ça peut sembler peu, hein, quand on en parle comme ça, mais compte tenu de toutes les contraintes techniques dont j'ai parlé, liées par exemple au partage de connexion de l'outil au sein d'une même fratrie, il faut qu'on soit réaliste. Un élève, s'il travaille vraiment efficacement 3 heures par jour, c'est quelque chose de positif pour nous. Voilà. Alors ça pose la question, pour répondre complètement à celle que vous m'avez posée, de comment on va le faire travailler. On a essayé de mettre en place des outils qui sont interactifs, de type quiz en ligne, QCM, liés à d'autres ressources vidéo, ressources sonores par exemple, où on met à disposition des élèves cette ressource et tout de suite derrière, pour favoriser l'apprentissage, on va coupler ça avec un quiz, un QCM, de façon à ce que l'élève retienne mieux. Qui plus est, il semblerait, j'ai eu un conseil pédagogique ce matin, que les élèves adhèrent bien à ce système d'outils et c'est là qu'on a les meilleurs taux de réponse et de rendu en termes de travail.
Très bien.
Les retours de vos équipes pédagogiques, qu'est-ce qu'ils vous disent là au bout de 2 semaines maintenant, bientôt? Comment ça se passe tout cela?
Alors c'est extrêmement chronophage parce que le travail de l'enseignant actuellement ne se résume pas à mettre des cours en ligne. Il passe énormément de temps via la messagerie interne de notre outil Viscolaire à dialoguer avec les élèves à les accompagner, à répondre à leurs questions lorsqu'ils n'ont pas compris. Beaucoup d'enseignants ont en moyenne 150 messages d'élèves par jour auxquels ils répondent. La principale difficulté pour eux, c'est, comment dirais-je, de se forcer à se déconnecter à certains moments, parce qu'il est, sinon il est, c'est un piège pour eux de, voilà, de devoir rester connecté toute la journée.
Bien sûr, d'accord.
Donc, trouver un nouveau rythme de travail qui soit, voilà, qui soit hygiénique, en sachant que beaucoup d'enseignants ont des enfants aussi à la maison, et qu'ils doivent aider à faire leurs devoirs, etc. Donc, l'aménagement du temps de travail n'est pas simple actuellement pour eux, et c'est un nouvel équilibre à trouver. Mais la masse de travail et le temps de travail est assez considérable.
Oui, j'imagine. Concernant les horaires des élèves, à quelle heure est censé commencer la classe virtuelle? Enfin, peut-être pas à 8 heures du matin, je ne sais pas.
Non, alors quand il y a des classes virtuelles, ce n'est pas tous les jours et pour tous les élèves. Ce n'est pas la majorité non plus, puisque la plupart du temps, c'est du travail qui leur est communiqué par l'outil que je décrivais. La classe virtuelle reste plus exceptionnelle. On essaie de les mettre à minima à partir de 9h, à partir de 10h, c'est une bonne chose pour être sûr d'avoir le plus grand nombre. Parce que ce à quoi on a à faire face, c'est le fait que certains élèves se couchent tard et se réveillent tard. Il n'est pas si évident que ça d'avoir les élèves disponibles à 8h le matin. Alors, l'outil numérique, oui, mais pas complètement. C'est la raison pour laquelle un personnel, en fait, appelle chaque semaine chaque élève ou sa famille pour faire le point de façon individualisée.
D'accord.
Nous considérons effectivement que l'outil numérique ne peut pas tout remplacer.
Bien sûr.
Le fait de se voir est important. Là, ça n'est pas possible actuellement. Le fait de s'entendre, c'est quand même c'est une plus-value pour nous. Hein. Donc, chaque élève... nous prenons contact par téléphone avec lui toutes les semaines. Ça permet de réguler pas mal de situations, et notamment lorsque l'on sent qu'un élève perd pied, se décourage, se démotive. Souvent, la conseillère principale d'éducation ou les assistants d'éducation peuvent les rappeler plus régulièrement et plus longtemps, hein, pour assurer un suivi individualisé plus efficace.
D'accord.
Voilà. Et effectivement, pour répondre pleinement à votre question...
Sur le rythme de vie, je voulais savoir donc le rythme de vie des enfants.
Alors, il est important de le garder, ce rythme-là, et de pouvoir dissocier ce qui relève du week-end et ce qui relève de la semaine.
D'accord.
Et dans la mesure du possible, pour chaque parent, bien sûr, nous les encourageons à faire en sorte que leur enfant garde un rythme et qu'il ne se lève pas trop tard le matin et qu'il ne se couche pas trop tard le soir. Je pense que c'est une des clés aussi du maintien avec le lien scolaire.
D'accord. Bah, petit message aux adolescents, vous êtes en pleine croissance et c'est pendant la nuit, pendant votre sommeil justement, que votre corps peut grandir aussi bien dans le cerveau, enfin physiquement que cérébralement. Donc le sommeil est très important, c'est un message que je vous donne les jeunes. C'est à ce moment-là que vous grandissez, donc si vous voulez grandir, eh ben, il faut dormir. Voilà, c'est important de bien dormir. Voilà, je ferme cette parenthèse. Merci Monsieur Kervella.
Merci.
Merci à vous.
Bon courage.
Et bonne fin de journée, merci beaucoup, au revoir.
Merci, au revoir. Alors ça, c'était du côté des jeunes, des collégiens. On va maintenant se tourner vers les plus jeunes. Jean-Hugues, tu m'entends toujours?
Oui, tout à fait.
Et on devrait donc avoir Monsieur Daré, directeur de l'école Kergomar, c'est bien ça?
C'est bien ça. C'est une école primaire, c'est-à-dire que c'est à la fois une école maternelle et une école élémentaire qui va de la maternelle au CM2.
D'accord.
Et on va appeler Monsieur Daré.
Bonjour Monsieur Christophe Daré, vous êtes directeur de l'école Kergomar, qui est à la fois une école élémentaire, donc avec CP, CE1, CE2, CM1, CM2, et également une école maternelle. Alors, ma question va être la même que pour M. Kervella tout à l'heure. Comment est-ce que au matin du vendredi 13, vous avez mis en place cette notion, cette continuité pédagogique, tout simplement pour faire simple, l'école à la maison auprès des élèves de votre établissement?
Alors, l'école Kergomar, c'est 270 élèves, hein, 4 classes de maternelle, 11 classes d'école élémentaire. Jeudi soir, donc, le président de la République annonce que les écoles seront fermées à compter du 16 mars. Les collègues n'avaient que le vendredi 13 mars, effectivement, pour s'organiser et préparer à minima, au moins sur ce jour, les informations essentielles à transmettre aux enfants pour l'organisation du travail à la maison dès lundi. Mais une journée n'a pas suffi. Il a fallu, dès le 16 mars, poursuivre. Donc, on a donné l'essentiel, hein, quand même, le 13 mars. Quelques exercices à faire, très rapidement, quelques consignes aux familles, un mot pour leur expliquer la situation. Du matériel pour ceux qu'on n'avait pas assez, crayons, cahiers de brouillon, etc., etc. Et tout le monde est parti vendredi soir. Et nous savions, moi, directeur et mes collègues, que ça ne suffirait pas. Donc, à partir du 16 mars, on a commencé à mettre en place effectivement une stratégie de communication un peu plus aboutie, en essayant de recueillir dans un premier temps des adresses mail qui fonctionnent auprès de nos familles, des numéros de téléphone qui fonctionnent auprès de nos familles. Toutes ne sont pas équipées en informatique, ou d'adresses mail ou du matériel pouvant les aider à travailler à distance. Donc ça, c'était la première difficulté à laquelle on était confrontés. C'est pour ça que dès le vendredi 13 mars, à tout cela, dès qu'on a pu leur donner des éléments papier, en faisant des impressions, des copies, on l'a fait en priorité. Et après, tout s'est géré petit à petit, virtuellement et à distance, à partir du 16 mars. Ça a provoqué une belle désorganisation dans nos habitudes de travail dans nos pratiques de classe, puisque là, on le fait en distanciel. Je dirais qu'à ce jour, tout est plutôt bien calé, bien organisé. La grande majorité de nos familles, si ce n'est toutes nos familles, ont été contactées. Le téléphone reste quand même le moyen de contact le plus facile, notamment pour nos familles les plus fragiles. Il est plus agréable et plus fonctionnel d'entendre l'enseignant parler, échanger et expliquer ce qu'il attend de son travail auprès de l'enfant. Voilà, ça c'est mes enseignants appellent régulièrement les familles pour leur expliquer cela. Mmh. Pour ceux qui sont équipés, qui ont du matériel d'impression, ils impriment les petits travaux que mes collègues envoient et ça permet un échange, c'est-à-dire que les enfants travaillent, ils font des photos avec leur téléphone, ils transmettent à l'enseignant qui peut corriger. Tous les outils, là aussi, ont été utilisés par les enseignants de l'école qui ont fait preuve de réactivité, d'ingéniosité, c'est-à-dire qu'on se sert de sites en ligne, d'applications pour pouvoir échanger, parce que ça se fait par téléphone, donc c'est très facile, d'adresses mail, donc celles qui ont été fournies par l'Éducation nationale ou celles que les enseignants ont fait à la hâte le vendredi 13 mars, de blogs. Voilà, toutes les stratégies ont été mises en place pour pouvoir assurer très très vite. On s'est donné lundi 16, mardi 17 mars pour être le plus efficace possible, le plus fonctionnel dès le jeudi. Voilà.
Mmh. Et
pour les enfants, quand vous pouvez... Oui.
Je voulais dire, et concernant les enfants qui sont en école maternelle?
Alors, pour les enfants de l'école maternelle, les collègues de maternelle on transmet régulièrement aux parents des attentes en termes de compétences. Ça se fait de façon plus générale. Voilà, ce qu'on attend de vous, essayez de jouer avec votre enfant régulièrement, garder des habitudes de réveil et de coucher pas trop tardif. Ce ne sont pas des vacances, c'est vraiment un temps de classe, mais un temps de classe distancié qui se fait à la maison. Donc, quand vous le pouvez, parler avec votre enfant, raconter-lui des histoires, jouer avec lui, qu'il compte tout et n'importe quoi à la maison, par exemple, qu'il mette la table, qu'il se rend compte que pour mettre la table, par exemple, pour 5 ou 6 personnes, il faut 5 assiettes, 5 couteaux, 5 fourchettes, 5 verres. C'est aussi un exercice de langage, de vocabulaire, mais de numération, puisqu'on compte. Toutes ces petites stratégies-là, jouer avec les lettres, jouer avec les mots, en fonction de l'âge des enfants. Donc, les enseignantes ont laissé des consignes écrites de façon très, très large et très générale. En plus de ça, les enseignants, l'Éducation nationale a mis à disposition des sites en ligne qui sont celui de Ma classe à la maison, par exemple, ou de l'UMNI, qui rappelle aussi aux parents ce qu'on attend d'un enfant de maternelle en petite section, en moyenne section ou en grande section et comment on peut travailler avec lui. Là, de ce point de vue-là, le ministère a petit à petit été très réactif. Donc, on a l'outil Ma classe à la maison qui semble plutôt bien fonctionner, mais qui est réservé là aussi aux familles qui sont équipées en informatique. Et on sait que chez nous, en éducation prioritaire et particulièrement à la source, on a des familles qui ne sont pas, hélas, équipées pour pouvoir fonctionner ainsi, mais ça, j'en parlerai après. Il y a l'UMNI aussi, qui est un site en ligne qui est très accessible. L'UMNI, c'est vraiment, c'est un site que moi, j'ai conseillé aux collègues et que j'ai indiqué aux familles pour qu'elles puissent travailler régulièrement. Et il y a l'outil télévision, où depuis cette semaine, tous les matins, pour les enfants de CP, notamment, il y a une leçon de lecture de 9 à 10. Après, ce sont les élèves de CE1 à CM1, CM2. Donc, on pouvait mettre toutes les infos qu'on pouvait donner progressivement aux familles pour qu'elles puissent s'investir de cette mission d'enseigner à la maison, parce qu'effectivement, c'est difficile de passer de parent à passer à je vais essayer de transmettre des savoirs qu'on me transmet à mes enfants. Donc, ça, c'est un exercice difficile et périlleux. Toutes les familles ne sont pas, entre guillemets, équipées pour faire cela. C'est le risque, c'est qu'on accroisse un petit peu en quelque sorte le fossé et les difficultés en fonction des situations sociales de nos familles.
Et oui, parce que peut-être que certains parents se sentent dépassés, voire même, je ne dirais pas humiliés, mais on peut imaginer que certains enfants ont plus de connaissances de la langue française ou des mathématiques que leurs parents, en raison justement de difficultés liées à leur intégration sur le sol français. Donc je pense aux parents allophones, ou même d'ailleurs à des parents français, mais qui seraient par exemple illettrés ou analphabètes, et qui ne savent pas comment faire. Et donc tout à l'heure, vous parliez...
Effectivement.
Oui. Et vous, alors, qu'est-ce qu'on peut dire à ces parents? Comment est-ce qu'on peut les rassurer?
Alors, pour ces parents-là, notamment, la consigne est claire pour nous, c'est qu'on privilégie l'appel téléphonique, c'est-à-dire qu'on privilégie l'échange oral et on donne à ces familles des petits conseils pour travailler sur des choses simples. Pour les enfants allophones, on a par exemple notre enseignant référent qui est M. Portier, donc il travaille à l'école Romain Rolland, qui centralise tous les enfants allophones de la source et des communes limitrophes et qui, lui, peut être un enseignant conseil pour mes collègues. Et on peut transmettre quelques informations oralement aux familles en leur disant de privilégier le vocabulaire. On sait très bien que là, sur cette période de confinement, il faut qu'on arrive à stabiliser les compétences de nos élèves. On n'est pas sur des apprentissages nouveaux, si vous voulez. On est vraiment sur une stabilisation de l'école. C'est-à-dire qu'on continue des pratiques scolaires. On continue de garder une habitude de l'école, on n'est pas en vacances, donc on continue de pratiquer tous les jours, on fait un peu de calcul, on fait quelques opérations, quelques techniques opératoires simples, on fait un peu de lecture, quand on peut faire un peu de lecture, on peut même lire sur un paquet de pâtes ou un paquet de gâteaux ou un magazine publicitaire, tous les supports permettent cela. Donc il faut être inventif, il faut donner aux parents des conseils simples et ne pas se noyer dans la foule de renseignements et dans la masse d'informations. C'est-à-dire que la consigne qu'on a donnée aux collègues, c'est aller à l'essentiel, lire, écrire, compter. On peut, par exemple, écrire tous les jours une phrase ou deux sur sa vie d'élève confiné à la maison. Voilà, et tenir un petit cahier de bord ma vie de confinement, parce que c'est, ça reste historique, cette situation.
Ou pourquoi pas, justement, développer son imagination et partir dans de la poésie. Enfin, là, je pense aux élèves qui voudraient parler autre chose, mais bien sûr. Les enfants ont beaucoup d'imagination et je crois que ils ont du temps aussi pour y laisser libre cours et pourquoi pas se lancer dans l'écriture. Ça, c'est un appel que je fais à la jeunesse. Ce que vous dites, ça rejoint les propos de M. Kervella tout à l'heure, donc principal du Collège Montesquieu, qui disait que c'est un peu comme un sportif. Avant le match, il y a de l'entraînement et en fait, le match n'est qu'un entraînement supplémentaire. Il va y avoir la reprise des cours dans quelques semaines, on l'espère. Et donc, il s'agit de ne pas perdre les acquis de l'entraînement, de tout ce que... Enfin, il n'y a pas de classe sans entraînement. En fait, c'est un entraînement quotidien que d'être élève. Et c'est ça que, justement, la continuité pédagogique... c'est ce que l'éducation nationale attend, j'allais dire, de la part des élèves, c'est qu'ils restent mobilisés pour apprendre, pour l'apprentissage. Ou alors, comme le disait tout à l'heure Jean-Hugues, maintenir une activité cérébrale et conserver des habitudes de travail à minima. C'est bien de ça dont il s'agit.
L'essentiel est là, c'est primordial, c'est l'axe principal du travail à distance qu'ont mis en place les enseignants, c'est ne pas rompre avec l'école, ne pas rompre avec les habitudes d'écolier, hein, celle de se lever le matin, hein, celle de se mettre au travail, celle d'avoir un temps de concentration, de faire fonctionner tout ce qu'on a appris auparavant, c'est-à-dire ce bagage hein, qu'on a acquis déjà, c'est de le faire fonctionner à nouveau, quitte à aller petit à petit vers de nouvelles connaissances et de nouvelles compétences. Mais c'est de garder effectivement une activité intellectuelle, une activité motrice pour ceux qui le peuvent en essayant de faire un peu de sport sur un balcon ou en sortant un maximum à 1 heure. Et ça, c'est extrêmement difficile parce qu'il faut aussi se mettre dans la place de ces familles confinées, à la source notamment, dans ces appartements, hein, pas très grands où souvent ils sont nombreux. Donc, on peut supposer qu'il y aura des symptômes traumatiques dus au confinement. Donc, ce qu'on leur demande de faire à la maison n'est pas simple. Même pour les parents, déjà, c'est difficile, on en a parlé, mais pour les enfants, c'est extrêmement compliqué. L'attitude d'un enfant avec son père ou sa mère n'est absolument pas la même face à un enseignant. C'est pas la même distanciation professionnelle, c'est pas la même relation. Donc, on a beau anticiper et préparer un maximum de travail pour nos élèves, la transmission faite par le parent n'aura pas peut-être pas le même impact. Et c'est difficile. Et là, la difficulté de l'exercice qu'on demande, c'est qu'il va probablement durer, se prolonger jusqu'aux vacances scolaires. Donc, ça fera une coupure énorme par rapport à l'école. C'est-à-dire qu'on va être au minima à 6 semaines, hein, voire plus. Donc, c'est comme si on avait placé un été en plein printemps. Donc, c'est extrêmement compliqué.
Mince, alors qu'est-ce que... j'imagine qu'il y a des élèves qui étaient déjà en situation de décrochage scolaire. Comment ça se passe là au bout de 10 jours, enfin bientôt 2 semaines? Est-ce que vous avez réussi à garder ce lien justement avec ces élèves qui étaient déjà en difficulté avant le confinement? Comment ça se passe pour eux précisément?
Alors, ce sont les élèves sur lesquels, moi, j'ai demandé en tout cas qu'il y ait le plus de vigilance et d'attention. Ces élèves qu'on estime en situation déjà difficile. Donc, pour cela, il y a un contact téléphonique. Puis, pour la plupart de ces élèves-là, en plus, il n'y a pas d'équipement informatique, hein, il n'y a pas d'Internet, il n'y a pas d'ordinateur. Donc là, c'est un contact téléphonique quasi régulier entre l'enseignant et la famille pour donner des consignes et des exercices. Quand on le peut, on est revenu à des situations anciennes où on a demandé à, par exemple, un petit copain qui habitait au-dessus ou en dessous de passer le travail, parce que lui pouvait imprimer, pouvait écrire, de passer le travail sur un bout de papier, soit sous la porte, soit dans la boîte aux lettres de ces enfants-là, pour préserver l'échange. Et on fonctionne comme ça pour l'instant, sans aucune garantie. De la qualité du travail fourni, parce que souvent on a des parents qui ont un téléphone mais qui ne savent pas faire une photo du travail fait, le transmettre sur une adresse mail, c'est extrêmement compliqué. Hein. Il y a aussi cette fracture numérique sociale hein, qui est ressentie. On n'est pas tous égaux par rapport à l'utilisation des nouveaux outils de communication et c'est du coup là on le ressent vraiment sur notre quartier en tout cas, sur notre secteur de la source. C'est une vraie difficulté. Clairement ce matin on a eu une conférence virtuelle avec Madame Bourgeon, notre inspectrice, qui nous a clairement dit qu'il ne fallait pas de surcharge de travail distancié, que c'était extrêmement difficile, qu'il fallait penser que si on avait la chance de reprendre en mai-juin, que ce n'était pas 2 mois où on avait comme objectif de finir le programme scolaire, on sait qu'on ne le finira pas. Et on sait très bien qu'à la rentrée prochaine, septembre-octobre, il faudra qu'on revoie des apprentissages qui n'ont pas été faits en mai-juin, pour ne pas creuser plus encore les difficultés scolaires qu'ont nos enfants et qu'ils soient complètement décrochés.
D'accord.
L'adaptation va durer, en fait, hein, sur le principe de travail des enseignants. Il va falloir s'adapter en mai-juin. Si on reprend en mai-juin, il faudra aussi s'adapter à la rentrée scolaire prochaine.
Bon, d'accord. C'est rassurant tout cela, parce que moi-même,
très
en tant
bien.
Que parent, non, mais c'est vrai que je parle en tant que parent, mais qui fréquente d'autres parents et qui peut rapporter la parole d'autres parents, il y avait beaucoup de craintes, justement, que les inégalités sociales se creusent. L'éducation nationale tiendra compte de cette situation exceptionnelle et, en fait, joue son rôle, j'allais dire, son rôle républicain, c'est-à-dire de promouvoir l'égalité des chances, de soutenir toutes les initiatives qui peuvent permettre aux individus de s'émanciper. Donc, je pense aux enfants, aux élèves, aux enfants qui, par l'apprentissage de la lecture, l'écriture et aussi des mathématiques, peuvent justement envisager d'avoir un avenir confortable, un avenir professionnel et peut-être plus serein que celui de leurs parents parfois. Et puis, la fraternité. Alors, la solidarité, on va plutôt parler de solidarité.
Elle
mais
existe.
Entre les,
oui.
voilà, entre les professeurs oui. et les élèves, et parfois même entre élèves et entre familles. Très bien.
Oui. Très bien. Elle existe. Hein. Voilà. Mmh. Et le contact avec les familles est toujours agréable. Moi, je prends l'habitude d'appeler tous les jours 4 à 5 familles de mon école pour avoir des informations. J'ai commencé par les familles qui avaient le plus d'enfants pour savoir comment elles s'organisaient avec 3, 4, voire 5 enfants d'âge différent dans l'appartement pour la continuité pédagogique. Voilà, elles ont besoin d'être rassurées. Déjà, on commence l'échange par « comment allez-vous ? J'espère que tout se passe bien pour vous. » Voilà, il y a ce contact qui existe toujours et cette chaleur humaine. Elles se sentent soutenues. Nos familles, elles savent qu'il y a une présence des enseignants, du directeur de l'école, qu'elles apprécient, et elles ne se sentent pas lâchées, si vous voulez, et perdues un petit peu dans cette pédagogie à distance. Mmh. Donc c'est fait. Enfin voilà. Et puis avec Jean-Hugues, on attache beaucoup d'importance à garder ce lien avec nos familles de la source. Voilà, c'est un quartier auquel on est tous très attachés, qu'on connaît très très bien, et on en connaît les difficultés, et on ne voudrait pas les accroître. Voilà. Cette pandémie, hélas, ne doit pas accroître les difficultés scolaires de nos élèves.
Et du côté des enseignants, et il y a Monsieur Kervala tout à l'heure qui nous expliquait qu'il faisait face à une surcharge de travail avec 150 mails à traiter par jour, que c'était chronophage, qu'ils étaient même obligés de se forcer à déconnecter en fait, parce que ça représentait une surcharge de travail. Comment ça se passe dans vos équipes ?
C'est une réalité. À partir du moment où on établit un contact avec les familles par mail, on suppose que le retour mail se fait à toute heure de la journée, mercredi, samedi, dimanche compris. Voilà. Donc les enseignants sont en principe très réactifs et ne comptent pas ni le temps passé à échanger au téléphone ou par mail. Ils le font à toute heure, y compris le mercredi, y compris le week-end. Voilà. On ne peut pas se permettre d'attendre avant de répondre à un mail. Il faut qu'on soit assez réactif. Si on veut être pertinent, si on veut être efficace, il faut qu'on soit réactif. Donc oui, effectivement, c'est une vraie charge de travail supplémentaire pour mes collègues. Ils le font tous sans se plaindre. Hein. On n'a pas pris le temps d'aller cueillir des gariguettes comme nous le conseillait Sibeth Ndial hier soir. Mais on aimerait avoir ce temps-là, mais en l'occurrence, ce n'est pas le cas. C'est triste pour une porte-parole du gouvernement, effectivement, d'être maladroite, entre guillemets, sur ce genre de propos. Il y a une vraie charge de travail supplémentaire parce que c'est un travail complètement différent. Complètement différent.
Et il faut noter,
la vocation à ne laisser personne de côté.
Daniel,
oui, Jean-Hugues.
Il faut noter, et on le voit là avec ce que nous a expliqué M. Kervala, ce que nous explique là Christophe Daré pour son école, mais c'est ça partout. Moi, je ne peux pas aller au-delà de ce que l'on connaît, c'est-à-dire la source, mais on voit bien, et Mme Bourgeon en a parlé aussi, tous les enseignants passent un temps énorme, énorme, à échanger avec leurs élèves et à chercher à contacter jusqu'au dernier pour s'assurer que les parents, à minima par téléphone, ont bien eu certaines consignes et ce qu'a décrit M. Daré là. Donc, et ça se fait. Et les parents le voient bien parce qu'ils sont très réactifs aussi. Il faut signaler les parents qui réagissent très, très rapidement.
Oui, oui. Non, les parents sont bien investis et voit effectivement la réactivité des enseignants à répondre à un message ou à corriger un travail qu'il aura reçu, à réorienter l'élève en question pour le corriger, qui change son analyse sur un exercice. Donc c'est, voilà, tout ça se met en place. Ça prend beaucoup de temps et beaucoup d'énergie.
Merci Monsieur Daré.
Merci, Monsieur Daré.
Merci.
Nous recevons à présent Madame Frédérique Lacour, directrice de l'école Pasteur à Orléans-la-Source. Bonjour, Madame Lacour.
Bonjour.
Bonjour, Madame Lacour.
Bonjour.
Alors voilà près de 2 semaines que vous êtes mobilisée dans le cadre de notions apprenantes sur la continuité éducative, plus simplement l'école à la maison. En quelques mots, comment ça se passe pour vous ?
Alors, ça se passe plutôt bien puisque nous avons un lien régulier avec toutes les familles de l'école qui nous ont transmises toutes leurs adresses mail. Donc, on essaye de faire un lien quasi quotidien avec tous les élèves de l'école, soit en envoyant par mail le programme de travail en version numérique, soit en échangeant via ma classe à la maison ou alors par des EMT qui ont été créés par les enseignantes. On a également transmis les liens qui nous avaient été fournis par l'Éducation nationale pour aller vers des sites dédiés de travail de mathématiques, français, musique, lecture. Nous avons aussi organisé des prêts de livres et des prêts de jeux de société. Et puis, nous avons choisi d'organiser à l'école une permanence hebdomadaire pour remettre les documents pédagogiques en version papier pour les familles qui auraient des difficultés à accéder au numérique. Voilà comment ça se passe à l'école Louis Pasteur.
Est-ce qu'il y a, parmi les nombreux élèves, les nombreuses familles, certaines personnes qui n'ont pu bénéficier, qui n'auraient pas pu bénéficier de l'un de ces moyens mis en œuvre, avec une certaine réactivité quand même, il faut le souligner, par votre établissement?
Alors, à ce jour, non. On a réussi à contacter toutes les familles, donc ça se passe plutôt bien pour l'ensemble de nos élèves et de nos familles.
Tant mieux. Voilà. Le bilan, au bout de 2 semaines, alors, vous avez réussi à mettre les outils en place. Quels sont les retours que vous pouvez avoir de la part des élèves ou de leurs parents?
Alors, les familles nous répondent, alors pas toutes, hein, certaines n'ont pas encore fait de retour du travail de leurs élèves, mais comme on les voit en général une fois par semaine, on arrive quand même à avoir un petit retour. Je pense que c'est un petit peu compliqué pour nos familles parce que l'accès au numérique n'est pas forcément facile pour elles. Et puis, il y a parfois beaucoup d'enfants à la famille, donc je pense que c'est pas toujours très facile de travailler sur un ordinateur ou sur un téléphone portable. Donc, on essaye de maintenir le lien le plus possible en les appelant aussi, en essayant de leur demander comment ça se passe, de leur donner des petits conseils. Les familles répondent, donc voilà, malgré ces petites difficultés qu'on a quand même à noter pour nos familles à l'école.
Il s'agit donc surtout de préserver le lien, en fait, peut-être même oui, avant les apprentissages, conserver le lien, montrer que l'école est toujours présente.
C'est ça. Alors, il y a le travail qui est fourni, qui est important, je pense, mais notre préoccupation, nous, à l'école, c'est effectivement maintenir le lien avec nos familles, leur montrer qu'on est là, qu'elles peuvent nous solliciter, que nous sommes présentes, et puis les encourager, les rassurer, leur dire qu'on a confiance en elles, même si on sait que ça doit être parfois un petit peu compliqué de faire l'école à la maison. En tout cas, nous, on les félicite. On félicite surtout nos élèves, on sait qu'ils travaillent. Et puis, on félicite les parents parce qu'on sait que ce n'est pas toujours facile pour eux. Voilà.
Et je crois que Daniel, Madame Lacour, avait quelques messages à passer.
Allez-y.
Oui, je voulais faire un petit message à plus particulièrement à destination de nos élèves et de nos familles de l'école élémentaire Louis Pasteur. Donc, leur redire qu'on a bien conscience des difficultés qu'elles peuvent rencontrer, que faire l'école à la maison, c'est effectivement quelque chose de pas très facile. Mais on voulait, toutes les enseignantes de l'école, les assurer de notre confiance et de notre soutien. On sait que nos familles font toujours au mieux. Et en tout cas, nos élèves sont courageux, on sait qu'ils travaillent. Et donc, on tenait à les féliciter et à dire bravo à tous les parents de l'école. Voilà. Et puis, redonner le petit message passé quotidiennement. Restez chez vous le plus possible. Prenez soin de vous et prenez soin de vos proches.
Bon, merci bon. Frédéric.
Merci à vous. Bon courage.
Merci.
Bon
au revoir.
Courage.
Au revoir.
Alors, je propose aux élèves qui nous écoutent et qui le souhaitent et qui le peuvent, bien évidemment, d'envoyer des énigmes ou alors des dédicaces, c'est-à-dire un message personnalisé pour un copain, une copine, un voisin, une voisine, un cousin, une cousine, de l'autre côté du poste et nous les diffuserons sur Radio Campus 88.3. Vous pouvez donc envoyer vos énigmes, dédicaces, charades ou petits problèmes pas trop compliqués à résoudre, voilà, pour qu'ils soient diffusés à l'antenne. Donc, dans un premier temps, vous les enverrez à votre enseignant, à l'enseignant de votre classe, à votre professeur. Et puis après, votre professeur nous les transmettra pour que nous les diffusions à l'antenne. Voilà.
Oui, ben oui, c'est aussi le but de ce qu'on a dit, ce qu'ont dit les différents collègues qui sont intervenus tout à l'heure. Le principe de garder ce lien tout en gardant une activité. Et là, c'est une excellente occasion de transmettre là, ce que vous avez envie de dire autour d'une énigme, autour d'une devinette, d'un petit problème à résoudre que vous soumettez aux autres sur l'antenne de Radio Campus, dans le cadre de toujours cette conserver cette activité, cette continuité pédagogique un peu différente d'une activité un peu originale. Donc, à suivre sur 88.3.